Salut, salut, bonjour, bonsoir, bienvenue messieurs, bienvenue mesdames, bienvenue chers enfants, vous êtes arrivés dans votre émission quotidienne, nous sommes vendredi soir et c'est l'heure d'écouter tous ensemble le juste... Non, et alors comment ça va mon bon vieux Chris?
Mais écoute, ça va. C'est une émission hebdomadaire, hein. T'as dit quotidienne, c'est pas parce que tu étais parti sur le juste prix ou si tu t'es planté, mais c'était hebdomadaire.
J'ai dit quotidienne. Ah ben vous l'avez compris, ouais. C'est hebdomadaire, c'est le vendredi soir, il est 18h et vous pouvez nous retrouver en podcast tous les vendredis soirs à partir de 18h et donc c'est bien une émission hebdomadaire et non quotidienne. Bon, alors qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, Chris?
J'avoue, pas grand-chose au niveau culturel. Pas de cinéma par exemple cette semaine, c'est rare, ça mérite d'être dit, donc ouais, pas beaucoup de cinéma, par contre beaucoup de séries, mais beaucoup de vieilles séries de sitcoms. Nos discussions des semaines précédentes sur les sitcoms m'ont donné envie de revoir d'anciennes sitcoms, Malcolm, etc., et que j'ai regardé avec plaisir, et je me suis un peu focalisé un peu trop dessus et pas sur les nouveaux trucs.
Je ne sais pas toi si tu as le même ressenti que moi, mais je trouve qu'en ce moment, au niveau cinéma, c'est un peu mort. On ne sait pas trop quoi aller regarder. Il n'y a rien de bien neuf ou de bien innovant.
Ouais, je dirais même, en fait, c'est pire. Je dirais qu'il y a trop de nouveautés. Qui ne donnent pas envie, ouais, c'est ça. Trop de nouveautés qui ne donnent pas envie de se déplacer ou d'allumer la télé. Mais c'est bien, il faut lire aussi un petit peu.
Est-ce qu'on s'y met, on avance, on commence?
Allez, en avant.
Allez, c'est parti, de quoi on va parler aujourd'hui.
Tête
dans le guidon, c'est parti. On va parler de quoi aujourd'hui, comme quasiment toutes les semaines. On va vous proposer un instant culte et aujourd'hui, on va vous parler de Sauver ou Périr.
Et ensuite, on parlera d'une série Netflix, Shogun. Avec mon accent, alors, ça fait Shogun ou Shogun, comme vous voulez.
Alors, une série Disney+, hein, plutôt que Netflix, mais on t'accorde le point quand même. Voilà, oh là, la firme aux deux grandes oreilles va nous en vouloir. Et ensuite, pour clôturer, on aura un coup de gueule commun. C'est rare avec Chris qu'on ait un coup de gueule commun, mais là, on va parler d'un sacré coup de gueule. Et si je vais quand même vous parler d'un petit coup de cœur, alors en tout cas, un petit coup de cœur de bande-annonce, et j'ai hâte d'aller voir ça. On disait qu'il n'y avait pas grand-chose au cinéma, mais je pense que c'est le seul film qui en ce moment sort du lot. Bon, bah écoute, sommes-nous partis?
Eh bien, en avant, en route.
Allez, balance-moi ton jingle.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
L'instant culte, et oui, l'instant culte, il faut le savoir, mais le 4 mai, c'est-à-dire demain, ce sera la journée internationale des pompiers, et donc du coup on a décidé de vous mettre dans l'instant culte un film de Frédéric Tellier sorti en 2018 avec l'excellentissime Pierre Niney, et j'ai su se nommer Sauver ou Périr. Alors Chris, j'aimerais récolter tes avis, toi qui as un regard critique sombre et noir, qu'en as-tu pensé de ce film?
Bah écoute, je suis mitigé sur ce film. Moi j'ai bien aimé ce qu'il racontait, mais j'ai pas aimé la technique et le jeu de certains acteurs et surtout actrices. Donc, ce qui était intéressant, c'est la description de la chute de cet homme qui est défiguré, parce que c'est ça qui est, c'est ça l'histoire. Hein. On aurait peut-être dû commencer par là, tiens. Ben, je vais commencer par faire l'histoire, et puis après, je te laisserai la parole. Donc, l'histoire, c'est un jeune pompier qui en veut et qui part pour sa première intervention sur un incendie et qui se retrouve pris au piège des flammes et qui se retrouve complètement brûlé au deuxième, troisième ou quatrième degré, j'ai oublié. Et du coup, qui est défiguré, qui doit réapprendre à vivre et réapprendre un autre métier, puisqu'il ne peut plus faire le métier qui le faisait rêver, c'est-à-dire pompier. Donc, j'ai bien fait le pitch. Tu valides?
Tu as très bien fait le pitch. Je valide à 100% le pitch. Et effectivement, mais c'est une histoire plus de reconstruction. Alors, moi, je vais te suivre un peu aussi. Je suis un peu mitigé. Alors, c'est un film qui m'a beaucoup touché. J'ai trouvé que Pierre Niney était vraiment très très bon en tant qu'acteur à l'intérieur, dans le film, pardon, même si je dois l'avouer, je trouve qu'il n'a pas du tout la tête de l'emploi par contre. Alors autant on voit qu'il a fait de la musculation quand il fait ses tractions chez lui, quand il descend, elle a une belle musculature, mais quand on voit Pierre Niney dans son casque de pompier, en tenue de pompier avec son visage tout fin, je trouve que ça colle pas du tout, en tout cas. cas peut-être à l'image du pompier. Alors c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais je trouve qu'il n'a pas la tête de l'emploi, en tout cas pour ce rôle, même si ensuite il joue magistralement bien le pompier qui a vécu un drame et qui doit se reconstruire pendant des années.
Je te suis sur ça aussi, mais je pense qu'il y a un truc générationnel. C'est-à-dire que moi, j'ai fréquenté et je fréquente quelques pompiers de l'ancienne génération, on va dire, qui ont 30, 40 ans aujourd'hui, qui sont bien épais, même de visage. Mais j'ai vu la nouvelle génération, c'est des crevettes, quoi. Et tu te dis, mais ils vont survivre avec le métier, etc. ce sera coupé, ça, tu crois ?
Non. Mais non. Mais c'est intéressant, ouais. L'identité en fait se transforme même à travers les métiers comme ça qui font c'est très réducteur de dire ça, mais très viril. Ça c'est un peu aussi une déception que j'ai eue dans le film, c'est que on a très peu la visibilité. Alors même si le film est vraiment très centré sur Pierre Ninet et son histoire, je trouve qu'on voit très peu la part féminine qui peut y avoir chez les pompiers et qui est très grandissante et qui en 2018 était déjà quand même bien présente. Donc ça c'était une petite déception de ma part, mais bon, qui est vite rattrapée, parce qu'après on est vraiment sur la reconstruction du personnage. Après il faut dire donc que c'est une histoire tirée de faits réels. Alors de faits réels, je le prends avec des pincettes, parce qu'en fait c'est pas l'histoire réelle d'un pompier qui s'appelait comme ça. Non, en fait c'est le réalisateur Tellier, lui, il a discuté avec plusieurs pompiers à qui il est arrivé des accidents, mais pas forcément ceux-là, et comment est-ce qu'ils se sont reconstruits derrière. Quand on a un métier qui est une passion, un rêve et même une attente familiale, parce que c'est ce qu'il y a aussi derrière ce film, pompier de grand-père en père et fils. Et donc du coup, voilà, c'est pas une histoire centrée sur quelque chose qui a réellement existé, mais c'est un peu de tout en fait, un peu de l'histoire de plusieurs pompiers.
Ouais, ça se veut ancré dans le réel, quoi.
Voilà, exactement. Après, sur le fond, moi j'ai trouvé le film très lent et trop lent. Je pense qu'il y avait vraiment des longueurs qui étaient importantes, mais d'autres pas du tout. Déjà, j'ai trouvé que l'accident arrivait très très tard. Je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu être coupées au début. Je pense qu'on aurait pu rentrer plus rapidement dans le vif du sujet, parce que des scènes assez pas forcément utiles. Alors attention, moi je suis pas pompier, et j'ai un très bon ami à moi aussi qui est pompier, et lui qui regarde ce film au moins 2 à 3 fois par an parce qu'il était sapeur-pompier de Paris. Dans une des casernes très proches de celle où a été tourné en plus le film. Donc voilà, ça a peut-être un sens différent en fonction de qui regarde le film aussi, et il s'adresse peut-être plus à des gens qui connaissent ces situations et qui vivent ce métier.
Il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est que c'est un film d'homme, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment un film de mec, j'ai trouvé le film, et que 2, je trouve qu'il est symptomatique du problème des personnages féminins dans les films français de cette époque. Et là, c'est flagrant avec Anaïs de Moustier qui joue la femme de Pierre Ninet et qui est un personnage exécrable. Et ce n'est pas sa faute, parce que c'est le scénario qui est comme ça. On lui a donné un rôle pour de faire valoir de Pierre Ninet en péripétie, c'est-à-dire est-ce qu'elle va continuer à l'aimer alors qu'il s'est fait défigurer. Les scènes dont tu parles, c'est justement ces scènes avec elle avant l'accident qui est le principal twist du film, entre guillemets, si je peux dire. Mais on la voit soutenir son mari de pompier et on la voit douter. Alors, c'est très cousu de fil blanc. Hein. C'est ça aussi qui gêne, c'est-à-dire qu'on voit le pompier, il sauve une vie, il fait la fête, il ne sauve pas une vie, il fait la tête. On lui dit qu'un de ses collègues est tombé d'un toit, oh là là, mais ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut très bien aussi m'arriver. Anaïs de Moustier, j'ai oublié le nom de son personnage dans le film, commence un petit peu à faire la gueule, mais je veux pas que ça t'arrive à toi, fais attention. Bon, mais t'as marié un pompier, donc c'est pas le moment de se souvenir de ça, hein, ma petite. Et tout ça, ça fait une sorte de personnage bétasse, pour pas dire bécasse, un peu bétasse, qui lui dit sur un pont des phrases que personne ne dit, Ouh là là, le français, excusez-moi. Que personne ne dit, c'est-à-dire, oh là là, mais je ne sais pas si moi je m'aime. Mais à quel moment tu dis ça à quelqu'un, quoi? Je trouve ça. C'est le cinéma français, c'est-à-dire qu'on met des péripéties, et pour mettre des péripéties, on transforme les personnages en archétypes. Et du coup, ça te sort du film parce que c'est pas possible que ça arrive. Moi, je dis jamais aux personnes avec qui je vis ou j'ai vécu, oh là là, mais je ne sais pas si on peut aller plus loin parce que est-ce que je me retrouve dans notre relation? Tu dis ça, toi?
Non, 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 non. Ben non, non, ça fait quand même très égoïste parce que dans une relation, on avance à deux, même si à travers l'histoire qui leur est arrivée dans le film, elle avançait toute seule. Et je trouve peut-être que ce n'est pas assez exploité pour comprendre aussi sa psychologie. Je pense que c'est aussi une erreur du film. Après, c'est d'être trop centré sur le personnage de Pierre Niney. Je veux bien comprendre hein, que c'est vraiment axé sur ce personnage-là, mais je trouve qu'on occulte vraiment tous les autres personnages. Rôle type, le type de la mère de Pierre Niney qu'on voit deux fois à l'écran, et les deux fois, elle parle à son fils, elle se lève et elle pleure. En fait, c'est même pas rendre service, rendre la part belle, en tout cas, à ce genre de personnage à travers un film.
Ouais, c'est le problème, comme j'ai dit, du scénario qui oscille entre ce qu'il veut démontrer entre ce qu'il veut démontrer et ce qu'il veut faire pour que le spectateur reste concentré. Et du coup, ça se perd et ça s'effiloche.
C'est ça. Après, on appuie un peu sur les points qui nous ont dérangés, mais je préfère quand même encourager les auditeurs, en tout cas s'ils n'ont pas vu ce film, à le regarder, parce que ça reste quand même une belle histoire de reconstruction avec un Pierre Niney qui est quand même vraiment, pour moi en tout cas, au sommet de sa prestation. C'est pas un acteur que j'appréciais forcément, Pierre Niney. Je l'ai découvert, et alors là je vais peut-être te faire rigoler, mais dans LOL en fait, c'est un acteur que je n'ai jamais trouvé drôle à travers ses films. Et en fait, quand j'ai regardé LOL, donc c'est la saison 3, je crois, où il est dedans, j'ai trouvé ce mec tellement simple et tellement drôle que j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus à sa filmographie. Et je suis content d'avoir découvert des rôles où voilà, il est un peu plus dans le drame et où on voit que c'est vraiment quand même un bon acteur. Je pense à La Boîte Noire, par exemple, avec André Dussolier. Et donc, ce film Sauvé au Périr, qui, malgré, pour moi, voilà, aussi beaucoup d'imperfections et trop d'oscillations à travers le film, reste quand même un très beau film. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre dans l'instant culte.
Alors, je vais rebondir sur deux trucs que tu as dit. Sur le premier truc, ce n'est pas un rebondissement, parce que je vais teaser une émission ancienne. On avait déjà parlé de Pierre Niney, et j'avais déjà expliqué, moi, comment j'étais rentré en contact avec Pierre Niney et ce qu'il représentait dans une autre vie. Donc, je vous conseille d'écouter, je ne sais pas quelle émission d'est alors, de octobre ou de novembre. Et le deuxième point, moi, qui m'a plu dans le film, c'est cette histoire de reconstruction. Mais pas telle qu'elle est rencontrée, telle... Oula. Pas telle qu'elle est racontée dans le film, mais telle que toi, tu l'as déduit quand tu vois le film. Par exemple, il va au Pôle emploi pour trouver un autre travail après son accident, et on lui dit que voilà, ça va être dur parce qu'il est défiguré et qu'il va devoir s'habituer à ce que les gens le regardent, etc. Et je trouve que ça raconte nos sociétés actuelles, c'est-à-dire que pour réussir aujourd'hui et à l'époque, si t'es beau, c'est bien, c'est mieux même. Oui. Si tu corresponds au code en vigueur, c'est-à-dire pas trop de vagues, beau gosse, pas noir, pas la peau mate, mais la peau bien blanche avec un bon prénom français, tu vas pouvoir arriver à quelque chose. Et c'est ça que raconte ce film-là, l'inadaptation, non pas de la personne qui est défigurée, mais le difficile accomplissement de soi quand tu n'es pas dans les normes. Quand tu es gros, ou quand tu es arabe, ou quand tu es noir, ou quand tu es tous les trois en même temps, ou quand tu es une femme, ou quand, enfin, etc., etc., etc. C'est ça que raconte ce film, et en filigrane, hein, c'est pas le vrai sujet, hein, mais c'est ça aussi que raconte le film, et ça j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la scène, quand Anaïs de Moustier lui dit « je ne sais pas si moi je m'aime encore », quand elle fait son quand il y a la première rupture avec son mari, c'est ça que ça raconte. Maintenant, elle veut pas d'un moche, quoi. Avant, il était beau, il avait des muscles. Maintenant, il est rabougri, il a plus de tête. C'est pas agréable à caresser, donc casse-toi. Ça raconte ça aussi, cette superficialité de nos sociétés actuelles habituées à Instagram, à Twitter, etc. Mon Dieu, je mélange tout, arrêtez-moi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, et c'est vraiment, je pense, une des, de ce que tu as dit, hein, pas que tu mélangeais tout et qu'il fallait t'arrêter. Je te rassure, merci. Même si enfin je peux en placer une. Je rebondis là-dessus, et c'est vrai que moi c'est une des scènes qui m'a le plus, j'ai envie de dire, touché ou marqué. Tu vois, c'est même pas, même pas par rapport lié à sa difficulté de se reconstruire, mais c'est vraiment donc la scène, donc c'est pas au Pôle emploi, hein, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est chez l'assistante sociale, et quand il dit qu'il aime aider les gens, être en contact avec les gens, et qu'elle lui fait bien comprendre que c'est difficile et qu'avec son physique, il n'y arrivera jamais, personne ne voudra jamais l'embaucher. Et donc je rebondis là-dessus, où c'est vraiment, c'est vraiment les stéréotypes attendus, et on les voit vraiment fort à travers ce film, et c'est une des plus belles choses qui m'a plu dans ce film, je l'avoue.
Voilà, mais moi aussi. Donc rien que pour ça, il faut voir le film si vous ne l'avez pas vu.
Exactement, donc disponible sur Netflix, Sauver ou Périr. Et j'ai d'ailleurs une petite question pour toi, Chris, après tu pourras ajouter quelque chose si tu veux. Pourquoi ce film s'appelle Sauver ou Périr ?
Mais c'est la devise des pompiers.
Oh, t'es très fort, des pompiers de Paris, exactement.
Des pompiers de Paris.
C'est la devise des pompiers de Paris, comme ce que vous pouvez voir à travers les images, d'ailleurs, hein, sans rien trop spoiler, parce que c'est vraiment le début du film. Tous les matins, quand ils se lèvent, ils chantent la Marseillaise et ils font l'appel des morts au feu dans les casernes. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est pas possible, je dis, c'est faux. Et donc j'ai demandé donc à mon ami pompier qui a commencé sa carrière chez les pompiers de Paris, il m'a dit si tous les matins on se levait, on hissait le drapeau, on chantait la Marseillaise et on nommait les morts au feu de notre caserne et voilà, on leur rendait un hommage quotidien.
Mais c'est très militaire, hein, ils font que du sport comme des militaires, ils sont très cadrés, enfin c'est militaire. Mais pour la réponse, j'ai pas de mérite, je l'ai appris grâce à Chloé Michaud qu'on avait interviewé, je crois, dans la première émission de Et alors, avec son roman qui se passe chez les pompiers de Paris, qui s'appelle Les Lettres de Notre-Dame.
À travers le temps. Super livre, d'ailleurs, on en profite pour faire un coucou à Chloé et lui dire encore merci de nous avoir fait découvrir ce livre magnifique.
Oui, j'ai rien à ajouter. Okay.
Eh ben, si tu n'as rien à ajouter, je te propose qu'on passe à la suite. Je te laisse balancer ton jingle ou nous mettre une petite musique. C'est toi qui choisis. C'est toi qui es aux manettes. Qu'est-ce que tu préfères ?
Bah, écoute, on fait une petite pause musicale.
Allez, qu'est-ce qu'on écoute ?
Oh ben, vas-y, je te laisse choisir. Sinon, je choisis Mylène Farmer.
Ah, ouf. Bon, on va écouter Au feu les pompiers. Non, je rigole. non, je n'ai aucune idée. Alors, tu peux mettre Mylène Farmer. C'est très bien.
Très bien, alors je suis content. On va écouter Mylène Farmer, un extrait de son dernier album de Romix XL, selon ce que vous préférez. Et c'est un excellent remix de XXL, justement, la chanson extrait de son album Anamorphosé.
Soit des filles de cocktail belle. Qu'on soit des filles des fleurs de poubelle. Toutes les mêmes. Qu'on soit des croissants de lune. Qu'on soit des monts de Saturne. On a besoin.
quoi, tonton?
On regarde quoi, tonton? On regarde quoi ce soir? On regarde Shogun. Shogun, une série disponible sur Disney+. Alors, on va pas trop en parler, pas trop en spoiler, parce que c'est un peu la série du moment. Je crois que Chris n'a pas encore fini de la regarder. Je ne sais pas s'il finira de la regarder. Mais en tout cas, on avait voulu vous en parler, parce que c'est une série qui en ce moment, en tout cas, fait parler d'elle et plutôt en bien. Chris, est-ce que tu nous pitches? Est-ce que tu nous parles un peu de cette série?
Ouais, je vais vous en parler très simplement. Je l'ai tellement, ça m'a tellement passionné cette série que je me suis endormi au bout de 5 minutes.
Et là, je te reconnais bien là. Ah, dès que ça parle pas français, puis dès que c'est un petit peu lent, oh là là, hein, le petit nounours est là et il ronfle et il retourne dans sa grotte.
Ben, effectivement, ouais. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de planètes différentes. Ça m'a endormi, bam. Ça m'a endormi. Mais quand même, hein, de temps en temps, je sortais de mon sommeil et je regardais. Et alors, j'ai vu une décapitation, un mec qui se faisait bouillir vivant dans une énorme marmite, une prostituée qui couchait avec un mec devant le grand, je dis le grand méchant parce que je pense que c'est le grand méchant devant le grand méchant de la série. Donc ça donne quand même un petit coup Game of Thrones à tout ce que j'ai vu, hein, l'air de rien.
Voilà, bah c'est ce que j'allais dire justement. Voilà, avec les belles explications et paroles de Chris, vous aurez compris que on se rapproche du Game of Thrones et effectivement, on est assez proche, en tout cas du Game of Thrones. Donc si vous aimez Game of Thrones, si vous aimez l'esprit un peu samouraï et en tout cas Japon un peu féodal, cette série est faite pour vous. On va pas trop en spoiler plus, hein. Parce que voilà, moi je pense qu'elle mérite d'être regardée, et un peu comme Game of Thrones, c'est très compliqué de pitcher un peu cette série. Mais voilà, c'est une série qui vous permet de voyager un peu et d'avoir de sacrés bons rebondissements au fur et à mesure des épisodes. Juste pour vous dire un peu également, c'est tiré d'un livre, hein, tout comme Game of Thrones, c'est tiré d'un livre. Alors je n'ai plus le nom de l'auteur. Et la première saison, donc la saison là qui est actuellement sur Disney+, reprend l'intégralité du livre. Donc à aujourd'hui, on ne sait toujours pas si il y aura suite ou pas, parce que là, l'entièreté du livre, en tout cas Shogun, a été en tout cas racontée à travers la série. Mais vu le succès planétaire que ça fait, je pense que ils vont vouloir broder de même pour étirer et tordre. Et tordre encore tout ce monde et ses histoires.
C'est James Clavell qui a écrit le livre Shogun en 75, paru en 75. Il y a quand même un point bénéfique positif sur la série, c'est que ça m'a donné envie d'en savoir plus sur l'histoire, notamment de comment le Japon a été caché par les Portugais pour s'enrichir. Je ne sais pas si j'explique bien, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ça m'a donné envie d'aller voir si c'est vrai, comment ça s'est passé, etc.
Ouais, bah écoute, tu devrais alors continuer un peu la série, si déjà tu as relevé ça dès le premier épisode. Ça marche. Bah écoutez, on ne va pas vous en dire plus sur cette série, parce que Chris, déjà, ne l'a pas vue en entier, donc j'ai pas envie de lui spoiler le reste, parce que je sais qu'à un moment, il va se sentir un peu moins fatigué, qu'il va avoir l'envie, en tout cas, de continuer, parce que maintenant qu'il sait que ça reprend l'intégralité du livre et qu'on n'est pas parti pour 17 saisons, ça va lui donner, je suis sûr, l'envie de continuer.
Ben, écoute, pourquoi pas, je vais tenter, on verra bien.
Allez, on passe au tu check, tu jettes.
Tu check.
Tu jettes.
Tu check, tu jettes. Et ce soir, un tu check, un tu jettes. J'ai envie de vous parler déjà, pour commencer, d'un petit tu-check. Ça ne va pas durer longtemps parce que je n'ai vu que la bande-annonce. C'est un film qui est sorti hier et c'est le film d'Artus. Un petit truc en plus. Et en fait, rien qu'à voir la bande-annonce, j'ai vraiment envie d'aller voir ce film. Est-ce que tu as vu cette bande-annonce, Chris?
Alors non, parce que je vais aller voir le film parce que je suis fan de Artus. Je le trouve génial.
Je vais te pitcher un peu le film sans rien dévoiler parce que je ne l'ai pas vu non plus. Mais oui, donc c'est Artus qui a voulu faire un film justement autour de son personnage Sylvain, si vous suivez sur les réseaux sociaux, son personnage Sylvain. Et donc du coup, en fait, là, c'est l'histoire d'un père et son fils, donc le père joué par Chris Cornillac. Et donc du coup, ils commettent un braquage et en fait, vu qu'ils se font rattraper par la police, ils décident de monter dans un bus d'handicapés. Et du coup, Artus se fait passer pour l'un des handicapés et le père pour un des moniteurs. Et donc, du coup, ils partent en colo tous ensemble pour essayer de se faire oublier par la police. Et là, donc déjà, le pitch, moi, m'a plutôt plu. Et ce que j'ai adoré, c'est les différentes interviews d'Artus en promotion du film que j'ai pu voir. Et en fait, c'est vraiment une personne qui m'a touché. Il a envie de faire ce film pour montrer aux gens que des personnes qui sont atteintes de troubles autistiques, trisomie 21 ou quoi que ce soit d'autre, c'est des gens comme tout le monde, qu'on peut très bien rigoler, être spontané avec eux et peut-être même encore plus que d'autres personnes. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est qu'en fait, il a essuyé beaucoup de refus. Il y a énormément de personnes dans l'industrie du cinéma qui ont dit « Non, nous, les handicapés, on n'en veut pas. Les gens seront gênés de voir des handicapés au cinéma. » Et effectivement, Artus l'a confirmé, hein, il a eu plusieurs messages ou plusieurs appels de gens qui lui ont dit « Mais j'ose pas forcément aller voir le film parce que j'ai peur de pas me sentir à l'aise, de pas avoir envie de rigoler alors que la situation est risible. » Et Artus les a tous convaincus d'aller voir ce film. Et en avant-première, enfin voilà, il est déjà en carton, en top office, même avant sa sortie. Il avait déjà dépassé les 30 000 réservations de places, ce qui est exceptionnel pour un film français.
Ben parfait, moi je vais aller le voir de toute façon.
Ouais, ben moi aussi, c'est vraiment, ça m'a donné envie. Artus, c'est quelqu'un que j'aime aussi beaucoup. On voit qu'il est très humain, qu'il sait rire avec des sujets assez compliqués. Après, voilà, hein, moi j'ai vu les différentes promotions qu'il a fait justement, ou à travers ses spectacles, où il est toujours entouré de personnes qui ont des handicaps parce qu'il aime vraiment foncièrement ces personnes et il a envie de se battre pour que les gens arrêtent de regarder ces personnes différemment, alors que à l'inverse, dans les yeux de personnes trisomiques ou autistes, eh ben justement, eux, on n'a pas envie qu'on leur parle d'une manière différente des autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. En tout cas, je vous invite à regarder certaines interviews d'Artus, notamment je vous invite à regarder certaines interviews d'Artus, notamment dans le talk show Quelle époque, où justement, c'est là où je trouve que vraiment il appuie là-dessus et où De Chavannes, qui lui justement était quelqu'un réticent par rapport à ça, lui confie que justement il le remercie de l'avoir fait changer d'avis vis-à-vis de certaines choses. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur que je voulais vous partager et je vous encourage à faire de ce film un carton et allons tous prendre notre billet vert pour aller voir ce film avec Artus.
Bah écoute, je te propose d'en reparler quand on l'aura vu tous les deux, l'air de
exactement.
Rien. Dans une prochaine émission.
Eh bien, pas de souci. Allez, on passe au... Tu jettes maintenant, tu check, tu jettes surtout, et on va jeter très très fort, très très fort une pierre rebelle à travers les yeux de la lune de Zack Snyder. De quel film j'ai envie de parler, là, d'après toi, Chris ?
Rebel Moon 2 ?
Ah, Rebel Moon 2. Alors déjà, pour la petite histoire, on a parlé il y a un petit moment, donc ça devait être en novembre, de Rebel Moon 1 avec Chris. Donc moi, j'avais pas vraiment aimé, mais bon, c'était pas non plus la catastrophe annoncée. Allez, il y avait quand même des points positifs à sortir. Et donc du coup, j'avoue que j'ai un peu pris la défense de Zack Snyder face à un Chris vraiment très agressif, très méchant vis-à-vis de ce réalisateur. Et aujourd'hui, j'ai juste envie.
Juste,
oui, peut-être. Mais à mes yeux, en tout cas, en novembre, dur avec ce réalisateur. Et là, j'ai juste envie d'une chose, et je le fais d'ailleurs, tu ne me vois pas, mais je pose le genou au sol et je m'incline face à toi et je te demande toutes mes excuses. Toutes mes excuses parce que Zack Snyder nous a servi une daube monumentale de A à Z et que c'est lamentable. Et qu'en plus, ses discours par rapport à ça, en disant que c'est la faute de Netflix si aujourd'hui c'est une daube et que lui, il veut trouver quelqu'un d'autre pour faire ça encore une fois, Snyder Cut, et ben je trouve que là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde.
Oui, mais il le disait déjà en novembre, dès la sortie de son premier, de la première partie, quand les critiques catastrophiques sont arrivées, je l'ai d'ailleurs dit dans la dernière émission, hein, il a dit tout de suite, ils ne m'ont pas laissé faire ce que je voulais, alors que pendant toute la pré-promotion, il était et chemise avec Netflix, c'est des génies, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, ils m'ont laissé tourner ça sur 4 heures, sur 5 heures, sur 6 heures, blablabla, blablabla. Et comme on lui a dit que c'était de la merde, il dit oui, mais c'est pas ma faute. C'est pas moi qui a fait le montage. Zack Snyder n'est pas un réalisateur. Zack Snyder n'a pas de talent. Zack Snyder ferait mieux de vendre des frites.
Ah voilà, on revoit l'agressivité. Non, là franchement, je te rejoins. Alors, je dirais pas qu'il a pas de talent en tant que réalisateur, parce que ça, je me permettrai pas de juger. Par contre, en tant que scénariste, au secours, au secours. Oh, mais le scénario est mon Dieu, autant le 1 déjà c'était un peu nul, le périple d'aller chercher des super guerriers, et puis alors là il fait venir ses super guerriers, et en fait le film c'est 2 heures d'une seule grosse bataille. En fait j'ai eu l'impression de le voir, et alors je sais pas si toi tu vas acquiescer ça, mais en fait c'est un mélange de tous les genres, un mélange de Star Wars, un mélange de Dune, un mélange de tout ce qui existe des westerns, et en fait j'ai l'impression de voir Les Sept Mercenaires. Tu connais ce film Les Sept Mercenaires?
Oui, je connais, j'étais en train de réfléchir. Et c'est vrai que avant la grosse bataille, on a l'impression de voir un western, notamment dans les décors et les poses de certains personnages et les vêtements. J'avais pas fait le rapprochement avec Les Sept Mercenaires, mais oui, tu as raison, je plus soi.
Les sept mercenaires, c'est l'histoire d'une personne d'un village qui va chercher des mercenaires justement pour résister à l'envahisseur qui est annoncé, quoi. Et c'est complètement ça. Et alors, autant Les Sept Mercenaires, tu t'attaches aux personnages, autant là, en 2 films, ils nous présentent des personnages. Alors, sans rien spoiler, mais je m'en fous, je spoil un peu. Mais quand tu as des personnages principaux qui meurent, mais t'en as rien à carrer du tout, quoi.
Mais rien à... Mais ça, c'est parce que c'est lourd. Tout devient lourd dans le deuxième. C'était déjà pas bien léger dans le premier. Mais là, le scénario use de toutes les ficelles scénaristiques, mais grosses comme des paquets de frites. Pour faire passer des émotions qui ne passent pas parce que c'est de la merde. J'en veux pour preuve la scène il y a un repas à un moment donné.
Ah oui, ah bah oui.
Mais quelle horreur cette scène. Mais c'est impossible. Comment c'est possible de faire encore ce genre de scène en 2024? C'est pas possible.
Et là, pour le coup, je te rejoins, c'est très très mal réalisé. Parce que, en fait, si vous voulez, ils sont peut-être 6 ou 7 autour de la table. Et pendant 30 minutes, chacun raconte son histoire qu'il a amené ici. Mais au lieu d'éparpiller ces histoires à travers des flashbacks, ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, j'aime bien quand les gens racontent des histoires, qu'on a des flashbacks, qu'on ait des scènes qui nous montrent en fait ce qu'ils ont vécu, mais éparpillez-les dans le film. Là, les mecs, en fait, tu t'es dit, putain, il faut que je raconte leur histoire. Il les a assis autour d'une table et pendant 30 minutes, chacun prend 5 minutes de parole pour raconter toute son histoire. Mais c'est d'une nullité absolue.
Mais surtout que tu as 4 heures en tout pour faire ton film, voire même 5 heures, et tu te dis, ah bah tiens, ce gros paquet-là, je vais le mettre là. Chacun raconte ses traumas, etc. Mais ça ne pouvait pas être délayé sur les deux parties. Il savait déjà depuis le début qu'il allait faire 2 parties. C'est de la merde, c'est incompréhensible. Incompréhensible.
Ah ouais, c'est exactement ça. En fait, t'as l'impression que le mec, il a fini son film, il a fait oh putain merde, on n'a pas raconté leur histoire. Allez, les gars, attendez, on va s'asseoir autour d'une table où vous allez me raconter l'histoire. Et puis on va faire un petit reshot là. Et puis je vais le placer là. Là, c'est bien.
Il y a plus de mots quoi. Il y a plus de mots. Il faut arrêter de financer Zack Snyder. Arrêtez. Ouvrez-lui une baraque à frites et qu'ils se reconvertissent.
Il parle déjà d'un 3, mais alors j'ai très peur.
Moi, j'ai plus de mots, moi. J'ai même plus de colère.
Je hais Zack Snyder. Ça y est, tu m'as converti.
Oui, oui. Mais bon, regardez tous les autres films. Hein. C'est de la merde. Hein. Et là, tu ne parles pas encore des ralentis à la mort boileuse. Hein.
Bah là, encore une fois, il y a plus de ralentis que de scènes accélérées dans ce film. Hein.
Ah, ça, c'est la blague du premier.
ouais.
Mais c'est bien, parce que c'est la vérité.
Et puis même le méchant, hein, je te rejoins. Le méchant, bah, il faut qu'il soit habillé en nazi. Enfin, ça, c'est ce que tu disais déjà par rapport au premier. Mais là, c'est encore pire. Le mec qui a une cicatrice, non, laissez-moi la cicatrice. Et puis quand elle arrive, il lui montre la cicatrice. Le mec, le plan d'après, il est déjà habillé alors qu'il était à moitié torse-poil. Il a la cravate nouée jusqu'en haut. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des erreurs, mais monumentales.
C'est un film à jeter, c'est un réalisateur à jeter. Et honte à tous ceux qui ont participé à cette merde. Honte à vous. Honte à toi, Sophia, j'ai oublié ton nom, et je ne veux pas me souvenir que tu es dans ce film. Parce qu'à côté de ça, elle a fait d'excellents films.
Honte à toi, mais courage à toi pour rebondir après cet échec commercial, on peut le dire. Hein. Je pense que c'est un réel échec.
J'espère que oui. Excuse-moi, j'allais dire que moi, j'ai refusé de le voir sur Netflix. Je l'ai vu de manière piratée pour pas que ma vision que ma vue soit comptabilisée. Ah, mais vous voyez, il y a quand même 1 million qui ont regardé. Hein. Ouais, mais 1 million pour 999 999 qui ont vomi ton film, du con. Non, bref.
Bon, bah donc, voilà, du coup,
je rebondis. Je le garde, ça.
Oui, oui, tu reviens. C'était très bien. C'était très bon.
Rien à foutre.
Non, non, non. Bon, ben bah, super. Bah, écoute, si tu es d'accord avec moi, j'en suis tout à fait content. Ça fait. Deux fois en une émission, je vais commencer à m'y habituer. Bon, sur ces bonnes paroles, on va se quitter donc sur un morceau. Pour se rabibocher un peu avec la lune, avec The Moon, je te propose d'écouter un extrait de l'album des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, et c'est The Great Gig in the Sky.
Ah ben, je suis d'accord, parce qu'en plus, je n'ai pas de culture musicale, donc je ne sais même pas qui sont les Pink Floyd.
Eh ben, tu vas voir, très beau morceau. Allez, belle soirée à tous et on vous dit à vendredi prochain. Ciao, ciao.
Should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.